Série censure, Zuan Falun de Li Hongzhi, création plastique et sonore de Mu, octobre 2016. Li Hongzhi, de nationalité chinoise, est né en 1951. Tout jeune, il suit l'enseignement de grands maîtres spirituels bouddhistes et taoïstes. Il commence à divulguer publiquement son propre enseignement, le Falun Gong, technique de Qigong qui a pour objectif, je cite, « la cultivation de l'esprit et du corps », et ce, dès 1992, avec le soutien des autorités chinoises. Le Falun Gong connaît un essor vertigineux en Chine, les cours deviennent gratuits, et Li Hongzhi reçoit même la reconnaissance de la SRQC, la Société de Recherche Scientifique de King Kong, organisme géré par l'État et administré par de hauts fonctionnaires communistes. C'est en 1995 que Li Hongzhi publie le livre Falun Gong en chinois. Mais rapidement, la situation se dégrade car la SRQC tente d'imposer à Li Hongzhi la création de branches du Parti communiste dans les différentes sections du Falun Gong. Li Hongzhi s'y oppose fermement et affirme son indépendance. La situation devient de plus en plus tendue entre l'État et les pratiquants du Falun Gong et le journal 20 minutes nous apprend que des milliers de copies de livres de Falun Gong sont brûlées. En 1996, Li Hongzhi est poussé à l'exil. Il séjourne actuellement à New York avec sa famille. Mais le déclencheur des hostilités entre les pratiquants du Falun Gong et l'État est l'événement du 25 avril 1999. En effet, ce jour-là, suite à une provocation policière, 10 000 personnes viennent faire appel dans le siège du pouvoir à Pékin. Bien qu'étant une procédure autorisée, cet événement met le feu aux poudres. Et c'est alors que la chasse à l'homme commence. L'éditeur français, Guy Trédaniel, édite la première version française du livre en 1999. Mais depuis 2012, ce livre est également censuré en Russie, sous la pression de la Chine. Info Sud, du 28 septembre 2001, dans sa tribune des droits humains, fait le bilan catastrophique des représailles sanglantes contre les pratiquants du Falun Gong effectuées depuis 1999. Plus de 300 morts, 50 000 internés dans des goulags, 1 000 transférés dans des asiles psychiatriques, une série de tortures, de viols, de licenciements, d'expulsions d'écoles et de logements, d'amendes astronomiques et de prélèvements d'organes. Cette dernière pratique, organisée en un vaste trafic d'organes prélevés de manière complètement abusive et autoritaire sur des pratiquants du Falun Gong, donne naissance au tourisme chirurgical. Cet état de fait a alerté les pays du monde entier qui malheureusement ne réagissent que faiblement malgré des preuves accablantes. Très récemment, le 25 juillet 2016, le Figaro.fr Santé titre « En Chine, 90 000 greffes clandestines font tourner des hôpitaux entiers ». Un rapport canadien de David Kilgour, paru fin juin 2016, dénonce un important trafic d'organes prélevé en majorité sur des prisonniers de conscience, comprenez sur des pratiquants du Falun Gong. Le journal 20 minutes rapporte le 20 juillet 2016 que l'agence officielle de la Commission des affaires politiques et judiciaires, organe secret du parti qui contrôle l'ensemble de l'appareil de la sécurité, aurait laissé entendre la fin des persécutions du Falun Gong. Mais quel crédit peut-on vraiment apporter à cette intention, compte tenu de l'ampleur de la situation désastreuse actuelle ? Avec l'accord de la maison d'édition Trédaniel, je me propose de vous rapporter deux extraits de ce livre qui permettent de mieux comprendre la raison de l'acharnement de la Chine à l'encontre de ses pratiquants. Extrait numéro 1, sixième leçon, la déviation dans un état démoniaque. On doit cultiver et pratiquer vraiment et donner de l'importance au Xingxing. C'est seulement en cultivant et en pratiquant véritablement qu'on peut parvenir à dissiper les maladies. Comme la pratique de gong n'est pas une simple gymnastique, mais quelque chose qui va au-delà des gens ordinaires, on exige du pratiquant de gong qu'il se conforme à des principes et des critères plus élevés, et c'est seulement après avoir rempli ses exigences qu'il pourra atteindre son but. Mais beaucoup de gens ne le font pas. Ils restent toujours des gens ordinaires et vont donc continuer à tomber malades le moment venu. Un jour, on sera frappé d'une hémorragie cérébrale. On attrapera subitement telle ou telle maladie. Un jour, on aura des troubles psychotiques. Tout le monde sait pourtant que cette personne fait des exercices de Qigong. Alors, si elle a des troubles psychotiques, les gens diront que c'est à cause des exercices de Qigong qu'elle a dévié dans un état démoniaque et on lui colle cette étiquette. Mais réfléchissez. Est-ce juste de réagir ainsi? Les profanes ne savent pas de quoi il s'agit. Même pour les experts de notre milieu, ainsi que pour de nombreux pratiquants de gong, il est difficile d'en saisir les raisons véritables. Si cette personne fait une crise à la maison, Ce n'est encore pas si grave. Mais les autres diront quand même que c'est à cause des exercices de Qigong. Si c'est sur le lieu des exercices que ces troubles psychotiques surviennent, alors ce sera un désastre. On collera cette étiquette et il sera impossible de l'ôter. Les exercices de Qigong provoquent la déviation dans un état démoniaque. On verra même ça dans les journaux. Il y a des gens qui ne font que s'opposer aveuglément au Qigong. Regardez, tout à l'heure il avait l'air très bien en faisant des exercices et voyez maintenant dans quel état il est. Pour une personne ordinaire, tout ce qui doit lui arriver arrivera. Peut-être que d'autres maladies ou d'autres problèmes surgiront. Est-il juste de mettre toute la faute sur les exercices de Qigong? C'est comme un médecin de l'hôpital. Puisqu'il est médecin, il ne devrait plus jamais être malade de toute sa vie. Comment peut-on comprendre les choses ainsi? C'est pourquoi je dis que beaucoup de gens ignorent ce qu'est vraiment le Qigong. Ils ne connaissent pas non plus ses principes, alors ils en parlent à tort et à travers. Dès qu'il y a un problème, on colle au Qigong toutes sortes d'étiquettes. Comme le Qigong ne s'est propagé dans la société que depuis peu de temps, beaucoup de gens qui ont des opinions bornées ne le prennent pas en considération. Ils le dénigrent et le rejettent. On ne sait pas ce qui se passe dans l'esprit de ces gens. Ils détestent le Qigong comme si cela les concernait directement. Dès qu'on parle de Qigong, ils disent que c'est de l'idéalisme. Le Qigong est une science, et c'est une science supérieure. Ces gens ont simplement une attitude vraiment obstinée. Il y a encore un autre cas appelé dans les milieux des pratiquants l'état de Qigong. Les personnes de ce genre ont l'esprit désorienté, mais elles n'ont pas dévié dans un état démoniaque. Elles sont tout à fait rationnelles. Je vais d'abord vous expliquer en quoi consiste l'état de Qigong. Vous savez, dans la pratique de Qigong, on accorde de l'importance à la question de la prédisposition. Dans tous les pays du monde, il y a des gens avec des croyances religieuses. En Chine, il y a depuis des millénaires des gens qui croient à leur religion du bouddhisme ou du taoïsme. Ils croient que le bien est rétribué par le bien et le mal par le mal. Mais il y a des gens qui n'y croient pas. En particulier, pendant la grande révolution culturelle, tout cela a été critiqué et taxé de superstition. Certains considèrent tout ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, tout ce qu'ils n'ont pas appris dans les livres, tout ce que la science moderne n'a pas encore atteint ou reconnu au cours de son évolution, comme des superstitions. Ces gens-là étaient très nombreux il y a quelques années. Il y en a relativement moins maintenant, car il y a des phénomènes qui, même si on ne veut pas les admettre, se sont déjà bel et bien manifestés dans notre espace. Vous n'osez pas les regarder en face, mais des gens ont maintenant le courage d'en parler. Et à travers ce qu'on entend et ce qu'on voit, on connaît tout de même certaines choses sur les pratiques de Qigong. Extrait numéro 2, 9e leçon, une personne de grande prédisposition spirituelle. Nous disons aussi cela. Si chacun cherche en lui les causes quand il a mal agi et fait mieux la prochaine fois, si chacun pense d'abord aux autres au moment d'agir, alors la société humaine changera pour le mieux, les valeurs morales se rétabliront. La civilité des gens s'améliorera, l'ordre public deviendra meilleur aussi. Il n'y aura peut-être même plus de policiers. Personne n'aura besoin d'être contrôlé puisque chacun se contrôlera lui-même et cherchera à l'intérieur de lui-même. Dites-moi, ce serait fantastique. Vous savez tous que les lois actuelles se perfectionnent de plus en plus et deviennent toujours plus complètes. Alors pourquoi y a-t-il des gens qui commettent encore des méfaits? Pourquoi n'agissent-ils pas en respectant les lois? C'est parce que vous ne pouvez pas contrôler leur cœur. Quand personne ne les voit, ils agiront à nouveau mal. Si chacun cultive intérieurement, alors ce sera tout différent. Et vous n'aurez plus besoin de défendre les autres contre l'injustice. Cette loi ne peut être qu'envisagée que jusqu'à ce niveau. Ce qui est plus élevé, vous ne l'obtiendrez qu'en vous cultivant vous-même. Les questions de certains d'entre vous deviennent de plus en plus concrètes. Si vous me demandez de répondre même à vos questions sur la vie quotidienne, que vous restera-t-il encore à cultiver et à pratiquer? Vous devez vous cultiver vous-même et vous éveiller vous-même. Si je vous disais tout, vous n'auriez plus rien à cultiver. Heureusement, la grande loi a déjà été rendue publique et vous pouvez agir selon la grande loi. Je pense que le temps de ma transmission de la loi touche pour l'essentiel à sa fin. C'est pourquoi je veux vous laisser quelque chose d'authentique pour que la loi puisse vous guider par la suite dans votre cultivation et votre pratique. Tout au long du processus de transmission de la loi, j'ai eu pour principe d'être responsable à la fois envers chacun d'entre vous et envers la société. Nous avons réellement suivi ce principe. Que nous ayons bien fait ou non, ce n'est pas à moi de le dire, c'est l'opinion publique qui tranchera. Mon souhait est de transmettre ouvertement la grande loi pour que davantage de personnes puissent en bénéficier et pour que ceux qui veulent véritablement cultiver et pratiquer puissent, guidés par la loi, s'élever par la cultivation et la pratique. En même temps, au cours de la transmission de la loi, nous avons aussi expliqué les principes selon lesquels un être humain devrait se comporter, et nous espérons qu'après ces conférences, si certaines personnes n'arrivent pas à cultiver et pratiquer selon cette grande loi, elles pourront du moins être de bonnes personnes. Ainsi, notre société en bénéficiera. En fait, vous comprenez déjà comment être quelqu'un de bien, et après le stage, vous serez également capable d'être quelqu'un de bien. Pendant la transmission de la loi, il y a aussi eu des obstacles. Les interférences venant de tous côtés ont été considérables aussi. Grâce au soutien important des organisateurs et des responsables de tous les milieux, grâce aux efforts des collaborateurs, nos cours se sont relativement bien déroulés. Tout ce que j'ai expliqué pendant ces conférences sert à vous guider dans la cultivation et la pratique vers les niveaux plus élevés. Autrefois, quand on enseignait la loi, personne ne parlait de ces choses. Nous les avons exposées très clairement en relation avec la science moderne et les connaissances scientifiques actuelles sur le corps humain. De plus, nous les avons expliquées à un très haut niveau. Je fais cela essentiellement pour vous, pour que vous puissiez réellement obtenir la loi à l'avenir, pour que vous puissiez vous élever par la cultivation et la pratique. Voilà mon point de départ. Au cours de notre transmission de la loi et de la méthode, beaucoup trouvent la loi très bonne, mais très difficile à mettre en pratique. En fait, à mon avis, difficile ou non, ça dépend des gens. Une simple personne ordinaire ne veut pas cultiver et pratiquer. Elle pensera que c'est vraiment trop difficile, inconcevable et impossible à réussir. C'est une personne ordinaire. Elle ne veut pas cultiver et pratiquer. Alors, elle pourra trouver cela trop difficile. Lao Tzu a dit « Quand une personne supérieure entend parler du Tao, elle le pratique avec diligence. Quand une personne moyenne entend parler du Tao, tantôt elle le pratique, tantôt non. » Quand une personne inférieure entend parler du Tao, elle rit aux éclats. Si elle n'en riait pas, ce ne serait pas le Tao. Pour un pratiquant authentique, je dis que c'est très facile. Ce n'est pas quelque chose qui soit hors de portée. En fait, beaucoup d'anciens élèves, présents ou absents aujourd'hui, ont déjà atteint des niveaux considérablement élevés dans leur cultivation et leur pratique. Je ne vous en ai pas parlé pour éviter qu'un attachement naisse en vous et que cela vous monte à la tête, ce qui affecterait le développement de votre force de gong. Une personne vraiment résolue à cultiver et à pratiquer pourrait faire preuve d'endurance et laisser tomber ses attachements de toutes sortes d'intérêts personnels. Elle pourra prendre cela avec légèreté. Tant que vous parviendrez à faire tout cela, ce ne sera pas difficile. Les gens pour qui c'est difficile sont justement ceux qui n'arrivent pas à lâcher les choses. Élever son niveau n'est en soi pas difficile. On a seulement de la peine à abandonner ce cœur humain, alors on dit que c'est difficile. Car devant les avantages concrets, il est très difficile de renoncer. Un avantage est là devant vous? Dites-moi, comment allez-vous renoncer à cet attachement? On trouve cela difficile. En fait, c'est justement ça la difficulté. Lorsque les conflits entre les gens éclatent, si nous n'arrivons pas à avaler une vexation, si nous n'arrivons même pas à nous considérer comme pratiquants de gong, alors je dis que ça ne va pas. Autrefois, quand je cultivais et pratiquais, de nombreuses personnes d'un niveau élevé m'ont dit « C'est difficile à endurer, mais on peut l'endurer. C'est difficile à faire, mais on peut le faire. » En fait, c'est ainsi. Une fois rentré chez vous, vous n'aurez qu'à essayer. Quand vous êtes vraiment en plein désastre ou au milieu des épreuves, essayez donc. C'est difficile à endurer. Endurez-le quand même. Lorsque cela vous paraît impossible à faire, ou si on dit que c'est difficile à faire, essayez donc pour voir si c'est vraiment impossible. Si vous pouvez vraiment y arriver, vous découvrirez qu'après avoir passé sous l'ombrage des saules, il y a l'éclat des fleurs et un autre village à l'horizon. Comme j'ai tellement parlé, il vous sera très difficile de tout retenir. Je vous demande surtout ceci. J'espère que chacun d'entre vous se considérera comme un pratiquant de gong dans sa cultivation et sa pratique future et qu'il continuera vraiment à cultiver et à pratiquer. J'espère que les nouveaux élèves, aussi bien que les anciens, pourront tous cultiver et pratiquer dans la grande loi, qu'ils pourront tous parvenir à l'accomplissement du gong et à la plénitude parfaite. J'espère qu'une fois rentré à la maison, chacun de vous utilisera au mieux son temps pour cultiver réellement.